Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leur projet d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous.
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de recevoir Nicolas Spies. Je ne sais pas s'il est vraiment plus connu sous ce nom-là, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, tu me corrigeras, mais il est surtout connu sous le nom de Running Addict. Et moi, je l'ai connu par là il y a 4-5 ans en arrière sur YouTube d'ailleurs, et c'est assez rigolo. Donc Nico, si je peux t'appeler Nico, je te laisse te présenter.
Bien sûr, avec plaisir, tout le monde m'appelle Nico. Mon nom, tu l'as bien prononcé en effet, même si ce n'est pas simple. Donc oui, Nico, aka Running Addict depuis presque 10 ans maintenant, d'abord avec un blog et puis ensuite avec une chaîne YouTube et depuis 4 ans avec Campus Coach aussi, une belle aventure qu'on a sur l'entraînement des coureurs amateurs.
Ok, et pratiquant aussi depuis tout ce temps aussi.
Ah, depuis même plus longtemps, parce que ça fait 18 ans que je cours.
Ok. Et c'est vrai qu'au début, quand je suivais beaucoup sur YouTube, on avait aussi vu ta progression et un peu ton caractère de testeur, d'expérimenteur. Je pense que ça, je sais pas si c'est ce qui te caractérise le mieux, mais en tout cas, moi, je l'ai perçu beaucoup comme ça.
Si, je suis quelqu'un qui aime tester des choses, qui l'essai erreur et le risque d'échec et d'avoir des erreurs ne me pose pas de problème. C'est comme ça que je me suis construit. En fait, moi, j'ai les conseils que je peux donner aujourd'hui, je dis que c'est parce que j'ai fait toutes les erreurs avant que je suis capable de les donner. C'est passé par là et ça m'a permis d'apprendre sur le tas. C'est pas forcément la méthode d'apprentissage qu'on recommande, mais moi, en parallèle de tout ce que j'ai pu faire comme recherche aussi, ça m'a construit comme ça.
Ouais, ça me parle beaucoup comme méthode. Et puis, pour la parenthèse, même si tu l'as dit, tu es avec Campus Coach, qui est une plateforme de coaching en ligne, où tu es associé avec Tristan Pavlak, qu'on a aussi reçu. Et même si je pense que la plupart des gens qui vont écouter connaissent déjà, on remettra toutes les infos nécessaires pour trouver. Et il y a surtout pas mal d'articles que tu postes, au-delà des vidéos YouTube, qui sont quand même super pertinents, intéressants, et qui, moi, me parlent beaucoup parce que, c'est comme souvent, c'est pas des choses qui vont trop dans la complexité, mais c'est ce qu'on a besoin. Et c'est justement, c'est bien fouillé, c'est bien recherché. Donc, je recommande à tous de lire ce genre d'article.
Merci beaucoup.
C'est sincère. Et je vais dire, tu vas passer à la casserole pour la première question, qui est la même que pour tout le monde. Ta définition de l'endurance, en quelques mots, c'est quoi?
Moi, ma définition de l'endurance, c'est de réussir à courir, parce que dans mon sport, on parle de course, c'est pareil dans les autres sports, mais à courir longtemps sans dégrader sa manière de courir. C'est pour ça que le marathon en particulier est une distance qui m'intéresse, parce que c'est un peu l'enjeu principal. C'est début de course, tout va bien, on maintient ce qu'on a travaillé à l'entraînement, et le but c'est d'aller au bout des 42 km en étant le plus proche possible de la foulée qu'on avait au début. Et la foulée inclut tous les aspects de dégradation qu'on peut avoir à côté.
Ok, donc il y a une dimension technique aussi quelque part là-dedans sur maintenir tout ça.
En tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est très… ça se sent sur mon profil où je sais que ma limite en endurance, elle est clairement pas cardio-respiratoire. Elle est plutôt sur musculaire et dans la capacité à avoir cette endurance musculaire qui te permet d'aller au bout sans ralentir.
Ok. Et ok, merci pour cette réponse. Je suis plutôt ok avec ça. Et on va parler de dégradation ou pas, d'ailleurs. C'est toi qui vas nous dire, parce que je te reçois, parce que t'es un routard, hein, un homme de bitume et de crosse un petit peu, je crois aussi, mais t'étais pas en tout cas un homme de la montagne avec un dossard, et t'as participé au marathon du Mont Blanc il y a peu de temps en arrière. C'était il y a 2 semaines, hein, si je dis pas de bêtises.
3 semaines.
Trois semaines, ça passe vite. Ça passe vite. Et donc, il y a 3 semaines en arrière, et ça m'intéressait justement la démarche que tu fasses ce changement, parce qu'il y a plein de gens qui font un peu la navette entre les deux. Et moi, qui suis un homme de la montagne, je passe sur route depuis cette année. J'avais fait un 10 km en 2004, donc autant dire que je découvre la route, avec mon premier marathon. Et on va pouvoir discuter un peu de s'il y a des passerelles, s'il y a des différences, sur un peu vraiment ton... Vu que tu es un explorateur, sur ton exploration à toi, mais j'aime bien ce concept. Et du coup, on va attaquer avec un petit retour d'expérience. Et je vais te poser la première question. Pourquoi le marathon du Mont-Blanc ?
Ça a été... À la fois, ça a été un concours de circonstances que moi, j'avais envie d'aller me frotter au trail à une distance quand même relativement longue pour moi, courte pour des ultra-trailers, mais longue pour quelqu'un qui vient de la route. Et Iron, dans le même temps, m'a proposé d'aller au marathon du Mont-Blanc. Donc, comme je sais que c'est une des courses reines du calendrier, je me suis dit « Allez, go !» On m'avait prévenu qu'elle était quand même difficile et que c'était pour une première, c'était peut-être un choix un peu osé, mais j'aime le challenge. J'ai pas peur encore une fois de l'échec et de me confronter à des choses difficiles. Donc ça m'a, au contraire, je trouve que ça m'a motivé de me dire que j'allais découvrir quelque chose de totalement nouveau pour moi.
Ouais, c'est en plus le marathon du Mont Blanc. Alors moi, je l'ai jamais fait. J'en ai fait d'autres. C'est une particularité, c'est que la course reine, c'est pas la distance de 90, c'est vraiment le marathon du Mont Blanc où c'est vraiment la grosse course. Et pour info, si ça parle aux gens, là, j'ai checké, ça te donne une cote ITRA à peine en dessous de 600 sur cette course. Et pour un débutant, ça reste des niveaux qui sont plutôt bons. Après, t'es loin d'être débutant dans la course à pied, il faut le dire aussi. Donc c'est une jolie perf. Alors t'en as toujours qui te diront que t'as pas fait premier.
Ça,
c'est généralement les gens qui sont. Oui, mais c'est généralement les gens qui sont pas capables de faire premier, ni de faire ta place. Donc ça, c'est pas important. Et ce qui est important, c'est la première chose, c'est dans quel état d'esprit t'as abordé un peu le trail, toi, ton mindset un peu général de dire je vais faire un trail, et, je vais faire celui-là, c'est le concours de circonstances, mais un petit peu tout ça.
Moi, je l'ai abordé après 3 prépas marathons successives. Donc, j'ai couru un marathon octobre 2021, avril 2022 et septembre 2022. Donc, je sentais le besoin d'aller voir autre chose, en fait, de sortir un peu de cette routine qui est une prépa marathon bien réalisée. J'ai toujours des choses que je peux aller améliorer, mais je sais que je commence à avoir vraiment intégré ça et j'aurais pu en refaire une, mais physiquement, ça serait passé. Psychologiquement, j'avais besoin d'aller voir autre chose et le fait d'aller sur quelque chose de totalement nouveau avec aucun repère, c'était parfait pour ça. En fait, ça permet d'aller se challenger différemment et d'apprendre au passage. Et je suis convaincu en plus que ce passage sur le trail va me servir pour ma prochaine prépa marathon. Ça, on le découvrira plus tard, mais moi, je suis convaincu que ça va avoir un effet positif.
Ouais, j'en doute pas une seule seconde, d'autant qu'en plus l'endurance sur des épreuves longues, les prépas, elles sont étendues, elles sont certains disent coûteuses, encore que c'est pas le bagne non plus, mais c'est des chemins, oui, tu progresses petit à petit, tu as ton objectif, et à chaque fois c'est une découverte de toi-même au fur et à mesure de la prépa, et en plus le jour de la course, mais c'est même surtout pendant la prépa, donc ça me parle beaucoup. Et est-ce qu'avant, tu étais 100% routard dans ta préparation marathon, ou est-ce que tu allais déjà sur du chemin, sur de la montagne ou sur ce genre de parcours différent?
Non, j'ai à de très rares exceptions près, 100% routard.
Ouais, 100% routard, ok. Et on va aller directement un petit peu dans la continuité, justement. Tu es passé de 100% routard à préparer un trail long. C'est pas un ultra trail, mais il faut pas s'oublier, hein, comme le marathon du Mont-Blanc. Comment tu as fait ta transition entre la route et le chemin, peut-être dans un premier temps, si je suppose, et après la montagne?
Si je repars un petit peu de ma dernière grosse course qui était Marathon de Berlin fin septembre 2022, j'ai pris une bonne pause après, parce que ressentais le besoin, une reprise assez progressive fin 2022, et j'avais un premier objectif semi-marathon qui était février 2023. Donc ça, je l'ai préparé spécifiquement, même si la prépa n'a pas été été parfaite. Ma phrase n'est pas très bien construite, mais c'est pas grave. Mais à la fin février, j'ai quand même battu mon record de 2 minutes sur semi, donc j'avais bien attaqué la saison. ce qui est toujours une bonne base hein, dans tous les cas, quel que soit ce qu'on fait derrière. Et j'avais le marathon de Paris en accompagnateur d'un ami, enfin de un ami youtubeur, Nassim Saïli, qui a fait 3h39. Donc moi, je me suis un peu préparé quand même à augmenter les distances pour pouvoir l'accompagner. Course qui a été extrêmement difficile, autant pour lui que pour moi. Donc ça va dans le sens de ce que je disais au début là sur ma difficulté qui est musculaire principalement sur le marathon. C'est pas une question de vitesse pour le coup, c'est une question de durée sur le bitume. Je dis sur le bitume parce que la prépa trail m'a montré que j'étais capable de durer par contre sur un terrain qui était différent, qui était varié avec des appuis différents entre les montées, les descentes, le terrain. Et du coup, ma prépa spécifique pour le trail, elle a duré 8 semaines, mais j'ai couru un marathon avant, donc j'avais déjà fait le volume en fait. C'est juste qu'il était sur du plat, et j'ai eu 8 semaines vraiment où j'ai passé un maximum de temps dans les trails par contre.
Ok, mais tu avais déjà le volume et la fréquence d'entraînement qui est déjà fondamentale sur ça.
Ouais, janvier, février, mars, je pense que j'étais sur du 7 fois par semaine et on va dire 90 kilos par semaine de moyenne.
Et on parle pour que les gens, si je suis à jour dans mes fiches, quand même que les gens situent un peu, tu es quand même sur 2,40 ou 2,41 au marathon, ce qui est déjà vraiment solide. 1,15 sur le semi, ce qui est aussi rapide, à moins que je ne sois pas à jour, mais c'est déjà pas mal.
Pas totalement à jour, mais c'est peut-être ma faute parce qu'il y a des choses, j'ai pas mis à jour ça partout. Donc, c'était à jour jusqu'à septembre, ouais. Ça a fait 2h37 à Berlin et du coup 1h13 à Barcelone en février.
Ouais, ça commence à vraiment être intéressant. Et en plus de ça, si sur le trail, je pense que ton profil d'endurance. Finalement, si tu fais t'as x2 plus 10 minutes entre ton semi et ton marathon, t'es quand même quelqu'un qui est naturellement endurant, je pense quand même, ou qui est devenu en tout cas endurant.
Ouais, c'est exactement. Ouais. Pas naturellement, parce qu'au début, j'étais très très loin de ça. Premier marathon, 3h08, et j'étais autour des 3h au début. Mais à force de travailler cet aspect-là et de faire des prépas marathons vraiment 100% focus marathon, ça, comme tout, ça se travaille. Et j'avais un profil plutôt vitesse au début, parce que moi, j'ai fait des courtes distances étant plus jeune, du 800, du 1500. Mais quand on le travaille, de toute manière, on peut changer son... Enfin, c'est pas changer son profil, mais matcher sa vitesse avec l'endurance au fur et à mesure.
Ok. Et puis, sur ça, on va parler un petit peu de la prépa un peu plus spécifique pour le trail, parce que je pense que c'est un gros changement par rapport à la route, même si ça reste quand même mettre un pied devant l'autre, mais pas dans le même contexte quand même. On va pas se mentir. Et il y a les choses qui sont vraiment différentes, en fait, je pense, entre sur du plat roulant et sur de la montagne, c'est qu'il y a, une notion de marcher et de courir que tu n'as pas forcément en marathon. Donc, on va voir si tu l'as travaillé ou pas, si ça t'a servi ou pas. Habituellement, après, il y a plein de manières de fonctionner, mais souvent, sur route, on va raisonner en kilométrage. Et peut-être qu'en trail, on est plutôt sur du volume. Ça, c'est aussi une différence. Et la dernière chose, entre autres, mais après, on fera derrière, ça veut dire que sur la route, tu es peut-être un peu plus dans du contrôle, entre guillemets, parce que tu as des distances, tu peux le calibrer. Et sur le trail, où c'est du volume, tu peux peut-être un peu moins calibrer ça. Il y a un peu plus peut-être de place pour la sensation. En tout cas, c'est l'avis que je peux en avoir. Tu as le droit de pas le partager. Et dernière chose que j'ai oublié, parce que tu as fait une vidéo là-dessus, tu t'es embrayé 2 sorties longues de suite, une de 2,30, une de 3,30, ce qui a priori est inconcevable pour un marathonien, en tout cas dans l'esprit. Donc, fais-nous un peu un résumé de tout ça, ton expérience sur cette prépa, ce qui a vraiment changé.
Alors déjà, moi, ce que je dois dire, c'est que je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec un ami à moi, Nicolas Dan, qui est trailer expérimenté. Je crois qu'il a une quinzaine ou une vingtaine d'ultra trail à son compteur. Ouais. Et c'est lui qui a écrit les plans trail de campus. Donc, je savais qu'on avait une philosophie relativement similaire de base et qu'il allait pouvoir m'apporter son expérience, notamment pour pouvoir faire ça en 8 semaines, parce que c'était assez court. Même si on l'a dit, j'avais le volume avant. Donc, grosso modo, j'avais des craintes, moi, là-dessus, sur la durée des sorties, les week-end shocks et l'enchaînement de plusieurs sorties longues, qui est vraiment le cœur de la prépa pour moi, en particulier dans mon cas, parce que les semaines ont été chargées sur avril, mai, juin, et j'ai pas fait énormément d'intensité. En fait, j'en ai presque pas fait pendant cette période-là. Je me suis principalement concentré sur les week-ends en termes de spécifique trail et de volume. Et en fait, en augmentant quand même relativement progressivement la durée des sorties, ce que je me suis rendu compte, c'est que à titre perso, en tout cas, j'étais capable de durer beaucoup plus sur du trail que sur de la route. Je ressors avec quasiment aucune fatigue de ce week-end le plus long que tu as évoqué, là, 2h30 le samedi et 3h30 le dimanche. Le lundi, je repars en pleine forme, en fait. Alors que tu m'aurais fait faire un 2h30 route, le lendemain, j'ai mal aux jambes et tout le monde sait, dans une c'est classique, hein, mais le fait d'encaisser les chocs sur de la route avec un rythme qui est assez similaire et du coup des impacts au sol qui sont assez similaires les uns aux autres, ça, comme on dit au Québec, ça m'agane beaucoup plus que ce que le trail m'a fait, en tout cas à moi. Peut-être que j'avais une crainte que musculairement je ne sois pas au niveau, mais c'était une crainte qui est liée vraiment aux longues distances sur route, alors que en trail, au contraire, je me suis trouvé relativement solide dans les montées et à pas trop dégrader dans les descentes malgré la longueur des sorties. Donc pour moi, c'était une bonne surprise. Et en augmentant comme ça le volume des week-ends au fur et à mesure, j'ai pris confiance dans cette capacité à durer sur des efforts de plus de 5 heures pour dans le cadre du marathon du Mont-Blanc.
Ouais, bien sûr. Donc toi, ta première, entre guillemets, crainte, a priori, c'était de dire comment tu allais réagir à ces sorties vraiment longues et ces enchaînements de sorties longues. Et finalement, c'est allé, quoi.
Ouais. Moi, au début, je ne le concevais pas. Hein. Enfin, c'est comme tu l'as mentionné tout à l'heure. On fait des 2h à 2h30 pour un marathon et il n'y a pas de grosse sortie ni avant ni après. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire un 2h30 le samedi et le lendemain être capable de faire un 3h30. Mais le trail est un sport différent. C'est vraiment pas comparable avec la course sur route pour moi dans ces aspects-là.
Je vais donner un exemple sur un sportif expérimenté que j'ai en ultra qui est plutôt de très bon niveau, là, qui a fait 8e à Verbier. Il fait, lui, on attaque ses blocs par un trail de 40 bornes qui pour lui est entre guillemets court. Et derrière, après, il va avoir, moi je programme souvent 8 heures sur 2 jours, après il les organise comme il veut. Et ça, il est largement capable de le faire. Tandis que si je vais lui faire faire une séance de tempo au plat, un peu plus roulant, le lendemain, il aura du vélo ou du repos. Tu vois ce que je veux dire? Et je comprends tout à fait ta logique. Je comprends tout à fait ta logique. Et justement, un peu là-dessus, tu dis que tu as fait très peu d'intensité. En tout cas, parce que sûrement, tu avais aussi les qualités suffisantes qui étaient développées avant. Mais si je prends, hormis le week-end choc, déjà, est-ce que tu en as fait plusieurs ou est-ce que tu n'en as fait qu'un seul?
J'en ai fait plusieurs. Je les ai commencés assez tôt, mais au début, ils étaient plus petits. Je pense que les premiers, ça devait être une heure et quart le samedi et deux heures et quart le dimanche. Donc, progressivement, on les a amenés, on les a augmentés de semaine en semaine pour arriver à ce fameux 2h30 plus 3h30.
Et c'est là qu'on voit que ton coach est expérimenté et que tu es intelligent, parce que quand tu fais 3 heures en 2 jours, c'est pas vraiment un week-end choc, mais tu t'habitues à y aller 2 jours de suite et tu prépares ce qui va arriver derrière. Et ça, sur le coup, c'est souvent oublié par les gens qui veulent complexifier beaucoup de choses. Mais par exemple, ça, c'est un truc pour moi qui est fondamental et un truc qui marche aussi bien. Après, chacun bosse différemment. C'est que des fois, tu joues sur la densité avec une intensité le samedi à une sortie plus longue le dimanche, tu vois, pour te préparer au week-end choc, ça peut fonctionner. Ou souvent, moi, ce qui m'arrive de faire, c'est si j'ai prévu 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, 15 jours avant, je fais 3 heures de vélo le samedi et 3 heures de course le dimanche. Tu vois, il y a plein de petits moyens comme ça aussi.
C'est drôle, je l'avais oublié, mais là, ce que tu mentionnes, dans les premières semaines, c'est ce que j'ai fait aussi, en fait. C'était plutôt une heure et demie à 2 heures de vélo, mais où je mettais un peu de tempo, parce que vu que j'ai un passé triathlète, je sais que ça passe bien et c'est le genre de choses qui amène une pré-fatigue qui va pas m'impacter le lendemain. Donc c'est quelque chose qu'on a utilisé au début aussi.
Ok. Et sans dire, parce qu'on va y revenir un peu plus en détail après, mais une sortie longue en trail, généralement tu pars avec le sac à dos, tu pars avec suffisamment à boire, à manger, parce que tu t'entraînes pour ta compète aussi. Ouais. Et par rapport à une sortie longue en marathon où tu vas boire, mais généralement, peut-être tu peux avoir tendance à moins t'alimenter que ce que tu peux faire sur une sortie trail. Est-ce que tu penses que ça a aussi un impact sur la récupération d'une sortie comme ça, au-delà de la charge mécanique?
Je pense oui. En plus, là, sur cette prépa-là, enfin, j'ai pas utilisé les mêmes, la même nutrition que sur la route. J'étais sur du de la marque NAC, qui est du coup spécialisée en trail et même en ultra. Donc, il y a aussi des protéines qui sont incluses directement dans les boissons, dans les bars, pour entre guillemets essayer de commencer la récup dans la sortie en fait. Et je pense que je l'ai vraiment fait sur 100% des sorties vraiment longues. Donc au-delà de 2 heures, j'étais sur ma nutrition type course avec mon 70 grammes par heure de glucides et donc un peu de protéines là-dedans. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai, à part en début de prépa, quand j'ai travaillé fortement sur certains aspects excentriques avec de la descente un peu poussée, où là c'était le but d'avoir mal aux jambes le lendemain. Mais en dehors de ça, j'ai une récup extrêmement bonne à chaque semaine.
Et justement, est-ce que tu penses, parce que j'essaie de faire les passerelles avec ceux qui vont varier entre le marathon et le trail, par exemple, ou le semi et le trail, peu importe, la route et le trail. C'est sûr alors moi, j'ai fait mon premier semi ce printemps, donc je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais c'est sûr que quand tu cours ton semi ou ton marathon, que tu essaies d'aller vite, l'hydratation, l'alimentation, c'est compliqué. Tu bois ton gobelet, tu fais comme tu peux, tu t'en fous plein la figure, pour être poli. Mais est-ce que tu crois que sur des sorties longues de prépa, ça ne peut pas valoir le coup de cette expérience que tu as de te dire, pour mieux les encaisser, je m'habitue à partir avec un sac à dos, et en tout cas avec plus à manger et plus à boire?
C'est drôle parce que c'est quelque chose que je veux tester dans cette prochaine prépa marathon, justement. Je veux essayer de voir si ça change quelque chose de faire ça. Donc, ma nutrition de jour de course, le marathon, je vais rien changer parce que ça, c'est full glucides, le max qu'on peut prendre et la stratégie, elle est assez simple. C'est même un peu de sous-hydratation légèrement parce que arriver légèrement déshydraté à la fin d'un marathon en 2h30, c'est pas impactant. Oui. Bref, on n'est pas là pour parler marathon, mais c'est un sujet qui m'intéresse évidemment. Mais sur la prépa, par contre, là, le but, c'est littéralement de récupérer le mieux possible de ces sorties pour pouvoir enchaîner la semaine suivante et potentiellement faire un peu plus de volume si on récupère mieux. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai l'intention de tester dans cette prépa.
Ouais, c'est marrant qu'on arrive un peu, enfin, que tu aies aussi cette conclusion-là. Et souvent, je dis aux gens, tout le monde optimise les procédés de récupération. Tout le monde dit qu'il faut dormir, boire et manger, c'est vrai. Mais un truc fondamental, c'est que dès que tu vas passer 1h30 dans ta sortie ou que tu vas doubler tes séances, je conseille aux gens de s'habituer à prendre la boisson déjà. En plus, s'ils l'ont en trail pour s'y habituer, et même sur de la haute intensité, selon le programme d'entraînement et le programme professionnel et personnel où tes stocks de glycogène, tu les bouffes aussi dans ta journée, dans tout, des fois, c'est aussi intéressant de pouvoir le faire.
Non, clairement, je suis d'accord.
Et justement, tu parlais de la grosse nouveauté, je pense, entre la route et le trail, c'est quand même la descente et la montée, mais on occulte souvent la descente quand même, parce qu'on a l'expression que le trail, il faut monter le plus vite possible. Mais je pense qu'il faut surtout descendre le plus économiquement possible. Et toi, comment tu as fait avec la descente? Il y a plusieurs stratégies, il y en a plein. Il y a soit tu t'exposes à la descente, soit tu fais du renforcement, soit tu fais les deux. Et tu as un peu parlé de l'excentrique, mais toi, comment tu as abordé un peu ça?
De cette manière-là, renfo, j'en faisais déjà 2 fois par semaine depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, pour le marathon avant tout, mais je l'ai gardé et on continue de travailler là-dessus. De s'exposer aux descentes. Je l'ai testé aussi au début, voir avec une descente un peu poussée ce que ça donnait sur le lendemain. Et quand j'ai vu que ça répondait quand même relativement bien et que je n'étais pas totalement musculairement cramé le lendemain, je l'ai fait un peu plus sur certaines sorties. Un peu éloigné quand même du marathon. Là, je ne l'ai pas fait dans les 4-5 dernières semaines. Je l'ai fait vraiment sur les semaines 6-7-8 avant le marathon du Mont-Blanc pour pas non plus garder de séquelles éventuelles, même si on ne le sent pas. C'est le genre de choses que les tests, j'essaye d'éviter de les faire dans les 4-5 dernières semaines. Là, on essaye de rester le plus propre possible sur ce qu'on fait pour pas impacter potentiellement sa course. Mais moi, il y avait en fait l'aspect musculaire ce que je me suis rendu compte pendant cette prépa, c'est que c'était pas forcément un problème. J'étais capable d'enchaîner des descentes à un gros rythme. Je sais que j'ai une sortie où j'étais au Mont Orford chez nous. Il y a des 500 et quelques mètres de dénivelé négatif sur un terrain qui se court bien. Sur une sortie de 2 heures et quelques, je l'ai fait 3 fois à du 3:30 environ. Et le lendemain, j'avais mal aux jambes, mais sans plus en fait. Donc c'est là où je me suis dit, ok, ça c'est pas forcément un méga enjeu pour moi. Pas dire que à la fin de course, t'as pas mal aux jambes, mais c'est l'aspect technique en fait qui pour moi, en tout cas pour un routard qui va vers le trail, est l'enjeu le principal. Il y a des courses sûrement qui sont moins techniques que le marathon du Mont Blanc, mais là, moi ça a été le gros problème. Il a été là, c'est de, ok, je suis capable de descendre vite musculairement, mais il faut aussi être capable de le gérer dans sa tête en fait, que le cerveau soit capable de poser les pieds aux bons endroits et de pas accrocher les éléments du parcours. Et ça, la foulée d'un routard qui est, si elle est optimisée et quand même souvent rasante, ça marche pas vraiment en trail.
Ouais, je vois tout à fait. Et je trouve, tu me diras si tu partages ça sur ta première expérience, c'est que le renforcement musculaire, que ce soit sur moi ou les gens que je coach, en fait, il t'aide pas, pour moi, hein, bien sûr, il t'aide pas à mieux descendre. Par contre, il t'aide qu'à l'entraînement, quand tu descends, tu aies moins d'impact. Donc, c'est-à-dire à mieux descendre à l'entraînement. Et à chaque fois que tu vas t'exposer, en fait, tu descends de plus en plus vite parce que tu es plus sûr de toi, tu es plus solide. Et par exemple, typiquement, moi, dont les meilleurs sportifs que j'ai, en trail, en tout cas, ils font pas de renfo, en tout cas en saison, parce qu'en fait, hors saison, on peut faire pour la basse santé. Hein, mais si on parle de perf, parce que la raison, elle est assez simple, en fait. C'est que eux, s'ils vont se faire un 1500 de D-moins, ils vont pas le payer. Très peu le payer parce qu'ils sont déjà exposés. Après, faut en refaire pour des basses santé, c'est autre chose. Hein, je parle que de performance. Par contre, chez des gens d'un niveau un peu en dessous, dont moi ou dans des gens que je coach, le renfo, il va vraiment t'aider quand même à passer le cap à l'entraînement et que ça se passe le mieux possible. Je sais pas si tu partages ça.
Ah oui, clairement. Moi, aujourd'hui, quelle que soit la discipline, c'est... Le renfo est une des bases, à la fois pour la prévention des blessures, parce que c'est ce qui permet de s'entraîner plus aussi, selon moi, et pour la performance en deux, en fait. Pour moi, c'est d'abord éviter les blessures, et en deux, la performance. Mais pour la majeure partie des amateurs, je dis souvent que le renfo, il faut d'abord l'envisager pour pouvoir courir toute l'année et limiter les risques de blessures. Limiter, ce qu'on est quand même en course à pied, c'est... on ne peut pas les éviter totalement. Mais...
Ah, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Et tu vois, j'entendais Tristan, ton associé, qui parlait de triathlon, qui est un fervent défenseur du renforcement musculaire aussi. Et comme moi, je le suis, comme tu l'es aussi. Et c'est juste qu'à arriver à un certain niveau où les gens sont déjà assez bons et solides, c'est dur de leur enlever de la course parce que leur emploi du temps n'est pas extensible. Et il faudrait, pour franchir un cap, qu'ils fassent du renfo. C'est-à-dire que pour faire du renfo, il faudrait leur rajouter un créneau dans la semaine qu'ils n'ont pas forcément. Mais par contre, avant d'arriver à ce niveau-là, chez des gens, des séances de... Moi, je prescris souvent 1 à 2 séances par semaine de 20 minutes parce que c'est une basse santé. Hein. On peut discuter de l'impact sur l'efficience, de toutes ces choses-là, mais avant toute chose, c'est vraiment pour être plus solide. Et si tu es plus solide, tu peux t'entraîner plus souvent, de toute façon.
C'est ça. Bah moi, c'est un peu à titre perso, c'est un peu ça que je vois aussi. C'est quand je faisais pas de renfo il y a plusieurs années, j'avais un peu la pensée que 70-80 km par semaine, c'était vraiment mon maximum. Si je faisais plus, je me blessais. Depuis que je fais du renfo, de prépa marathon en prépa marathon, j'ai augmenté le volume un petit peu, pas plus que 5 à 10 km en moyenne sur mes semaines. Et la dernière prépa marathon, je pense que j'ai eu 5 ou 6 semaines à 100, entre 100 et 110, avec un pic à 125. Et j'ai eu des petites douleurs, des petites alertes, évidemment, quand on est sur ces volumes-là, mais rien de problématique. Ma théorie du 70-80, je l'ai explosée au final. Moi, je suis convaincu que c'est grâce au renfo.
Oui. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu Strava, alors je ne sais pas si tu as tout dessus, mais en tout cas ton Strava pour préparer l'émission. Et sur le marathon du Mont Blanc, ce que je vois, c'est que t'as, sur les dernières semaines, hein, je n'ai pas tout, mais c'est 9h38 avec 100 bornes. En fait, tu as 2 semaines de suite à 100 bornes, avec à peu près 2008 de D+, un peu là-dedans. Donc, tu t'es aussi allé faire 100 bornes avec du D+, quand pour le marathon, ta plus grosse semaine, c'était peut-être 120 bornes avec que du plat.
Ouais, bah je l'ai fait aussi. C'était ça, c'était clairement dans le plan si tout se passait bien dans la prépa. C'était de faire 3-4 semaines un peu, on va dire légèrement conservatrices, voir comment ça réagissait avec les week-end shocks. Et si je voyais que j'en ressortais vraiment très bien, d'aller mettre un peu plus de volume pour aller optimiser un petit peu plus la forme sur le long. Mais c'est, j'ai envie de dire, j'aurais pu m'en passer, faire un peu moins, mais comme ça allait bien et que je voyais aucun risque, j'ai été reprendre un volume que je connais sur une fin de prépa marathon, qui est aussi un peu rassurant psychologiquement aussi. Tu cours tous les jours, ouais. Tu fais ton... T'es dans une routine d'une certaine manière à l'approche d'une course, ça aide quand tu reproduis des patterns, enfin des schémas.
Et même si tu étais accompagné par ton coach, est-ce que tu as connu ce que tous les trailers connaissent, en tout cas ceux qui s'entraînent beaucoup et qui font des longues sorties, y compris moi, y compris tout le monde, le fait que quand tu es sorti 4 heures, en fait, et que tu récupères bien, tu as tendance, enfin il y en a beaucoup, moi le premier, à vouloir en faire et considérer qu'une séance d'une heure et demie, en fait, c'est rien. Et tu vois ce que je veux dire, aller un peu une escalade, toujours en faire, parce que finalement, c'est pas si long que ça.
Je pense que j'ai pas eu assez de durée de prépa pour en arriver là, mais je vois bien le risque. En tout cas, moi, si je devais te comparer un peu ma semaine, j'avais 5 jours qui étaient typés classiques. En fait, route, je vais faire mon volume au parc à côté de chez moi parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Et le week-end qui était vraiment focus trail. Donc, mes sorties de semaine, c'était littéralement les jogs que je pourrais faire dans une prépa marathon et point. En fait, il n'y avait pas de différence. Et le week-end, là, j'ai respecté scrupuleusement les durées qu'on avait prévues avec Nico. Donc là-dessus, j'ai pas eu ça, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ça pourrait être un risque dans le futur.
Okay. On a 3 Nico pour le prix d'un dans le podcast. Attention. Et juste, toi, quand on s'entraîne, il faut toujours faire des choix, même les sportifs de haut niveau. Et toi, j'ai vu que tu avais mis un gros focus sur l'acclimatation à la chaleur. À un moment, tu étais quand même pas mal là-dessus. Et avec le recul, ben moi, je comprenais l'idée, hein, évidemment. Et c'est toi le mieux placé pour en parler. Quand tu fais ça, tu ne fais pas un focus sur autre chose. Et avec le recul, est-ce que c'était bien ou est-ce que si c'était à refaire, tu ferais différemment en mettant le focus ailleurs?
Non, je ne changerais rien du tout parce que je sais que moi, la chaleur est un problème. C'est pas, j'ai du mal à m'adapter à la chaleur. J'ai du mal à être performant à la chaleur. Et quand j'ai vu les éditions passées du Marathon du Mont-Blanc, il y a fait régulièrement très chaud. Donc ça, c'était une de mes craintes principales, c'était de ne pas pouvoir m'exprimer le jour J parce que surchauffe. Et du coup, là, tu peux être dans la forme de ta vie. Si tu es en surchauffe, c'est terminé. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était un truc que dès le début, j'avais mis comme un objectif. Et par contre, cette adaptation à la chaleur, je l'ai faite une fois que les grosses semaines d'entraînement étaient passées, et du coup, j'ai quand même pas mal réduit le volume, la difficulté de l'entraînement pendant la période où j'ai fait cette adaptation à la chaleur, parce que c'est un stress supplémentaire pour le corps. Donc, si on espère faire le même volume à côté et qu'on rajoute ça, je sais pas comment ça réagit parce que je l'ai pas fait, mais en général, trop de stress, y a quelque chose qui fonctionne plus à un moment ou à un autre.
Ouais, c'est comme tout, si tu mets le focus un peu plus sur quelque chose, tu réduis un peu plus sur autre chose pour garder l'équilibre. Et toi, tu l'avais fait pas mal sur, j'ai vu que tu avais fait un peu en sauna, enfin en tout cas en chambre chaude, etc. Et est-ce que tout le monde n'a pas forcément accès à ça? Et toi, sur l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour s'acclimater à la chaleur sans y avoir accès?
En fait, je voulais faire ça en sauna. Et le sauna de ma salle de sport a été fermé pile au moment où moi j'aurais voulu le faire. Donc j'ai dû adapter ma stratégie. En fait, je l'ai fait en bain chaud. Donc ça, accessible quand même relativement facilement. Ce que je faisais, c'est qu'on était quand même au mois de juin avec des belles températures. Donc j'allais courir en milieu de journée, plutôt couvert, pour déjà rentrer en étant en un niveau de température corporelle élevé. Et après, j'allais dans ma salle de bain, un peu de chauffage, bain chaud, exposition totale pendant peut-être 10 minutes la première fois. Et le maximum que j'ai fait, c'est 25 minutes, mais en progressif aussi. toute façon, on sent bien quand on commence à être vraiment dans un état de surchauffe, c'est bien, c'est que ça, le corps, on a des signaux qui sont assez, assez bons là-dessus. Donc, ça sert à rien d'en faire, faut pas non plus faire des trucs de fou en se disant si j'en fais plus, ça va être plus efficace. Non, c'est, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai vu l'effet, en fait. Après avoir fait cette période d'adaptation, je transpirais beaucoup plus vite, ce qui au début est un peu perturbant, parce que tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe, ça réagit pas comme d'habitude, mais en fait, je supportais aussi beaucoup mieux la chaleur parce que bah, potentiellement c'est peut-être dans la phase initiale que je prenais chaud avant de transpirer et après j'avais du mal à l'évacuer. Là, j'ai trouvé que de ce côté-là, ça marchait beaucoup mieux et en tout cas le jour de la course. J'ai vu beaucoup de monde qui avait du mal avec la chaleur. J'ai pas dit que c'était facile de mon côté, mais considérant que pour moi c'est un vrai handicap d'habitude, là ça a pas été un problème majeur.
En fait, finalement, ta thermorégulation était plus réactive au bout d'un
Exactement.
Moment. Ouais, je vois. Mais toi, tu disais d'aller courir à 15 heures, même si t'as pas accès à des bains. Oh oui, mais j'ai des gens que je coach. Oui, ça va. Je leur dis, bah ouais, le samedi, il va courir à 15 heures parce qu'il faut. C'est important d'aller s'habituer à ça. Et c'est comme c'est important des gens qui préparent des ultras d'aller courir la nuit. Parce que ton environnement, c'est pas le même et il faut s'y exposer.
Non, c'est clair.
Ok, ok. Et puis, on va passer un petit peu sur la course, hein, maintenant qu'on a fait la prépa, de comment ça s'est passé. J'ai un ou deux trucs que j'ai notés, mais pas beaucoup, et je vais te laisser t'exprimer. Les deux points que j'ai notés, c'est que tu t'es servi de ton cardio pour contrôler si tu n'étais pas trop vite. Donc ça, je voulais savoir si tu le faisais aussi sur route habituellement. Et justement, il y a eu cette alternance marche-course, il y a eu le ravito où tu as abordé différemment, tu avais calculé tes glucides, etc. etc. Et ça, je voulais voir un petit peu avec toi ton retour d'expérience de course et sur ces trois points, en fait, si vraiment tu sens que ça t'a aidé, si tu sens qu'il y en a qui t'ont plus ou moins aidé que d'autres et s'il y avait des trucs où tu es passé à côté et tu aurais dû mieux faire, entre guillemets, parce qu'on peut toujours mieux faire quand on expérimente.
Clairement, oui, il y a plein de choses à améliorer sur cette expérience, mais je m'y attendais un peu hein, pour un premier essai. Mmh. Une des choses qui a très bien marché ou que j'ai trouvé très efficace pour moi à l'entraînement, c'était d'utiliser le cardio pour construire mes sensations, en fait, parce que ce que j'utilise principalement sur route, c'est l'allure et mes sensations du jour pour adapter un petit peu si besoin. Et le cardio vient en troisième indicateur pour vraiment, s'il y a vraiment des choses déconnantes, des fois ça peut aussi faire se poser des questions. Là, j'ai inversé totalement les choses parce que l'allure en trail, on l'oublie. Les sensations, j'avais pas encore construit ce schéma de mental de quelles sont mes sensations en fonction du dénivelé du terrain. Donc en fait, il me restait que le cardio et moi j'ai besoin d'avoir quelque chose sur lequel me fier pour gérer mon effort. Enfin, je trouve que c'est important pour pas se mettre dans le rouge. Donc j'ai utilisé le cardio à l'entraînement. Ça a très bien marché. Ça m'a permis d'apprendre à contrôler mon effort, d'apprendre à marcher quand c'était le temps de marcher. Et ça a été vraiment efficace parce que les deux premières semaines, j'arrivais pas à contrôler mon cardio. Et au fur et à mesure, j'ai appris quand commencer à marcher, anticiper pour le faire avant d'être un peu dans le rouge. Et j'ai été très content de ça. Après, le jour de la course, j'ai vite oublié le cardio parce que on était dans ce genre de journée où, au bout de 250 mètres, mon cardio était trop haut. Ouais. J'avais prévu de partir sur du 148 BPM environ, qui est l'estimé de mon seuil 1. On va pas rentrer dans ce genre de débat aujourd'hui, mais et j'étais à 155 BPM dès le début de la course, à une allure qui était mon allure prévue sur les premiers kilomètres qui étaient plats. Donc ça marchait pas. Ce jour-là, soit je partais en mode bon, ma course va être ratée parce que il y a quand même un signal qui est assez négatif. Il faut se le dire quand même, quand tu es 5-6 BPM au-dessus de ce que tu prévois, bon, il y a l'excitation du jour J, mais ça ne fait pas tout. Enfin, ça ne sentait quand même pas la grande journée. Donc là, moi, j'avais deux choix. C'est soit je continue sur ce que j'ai prévu quand même en me basant un peu sur mes sensations, soit je ralentis totalement et je fais une journée vraiment plus lente que prévu et je m'assure de ne pas cracher plus tard. Bon, comme tu l'as compris, j'ai pas trop de problèmes à expérimenter, à me dire si ça crache, c'est pas grave. ça sera un apprentissage et je préfère en fait prendre plus de risques, surtout sur une course comme ça qui est une première, que d'être trop conservateur et de me dire à la fin, ah bah finalement, j'aurais pu en mettre un peu plus. Donc là, j'ai arrêté de regarder le cardio très rapidement dans la course en fait. Et je me suis fié à mes sensations pour le coup, que j'avais un peu développé quand même dans l'entraînement et qui est pour moi l'indicateur, je pense, le plus adapté quand même en trail. C'est ce que me disait aussi Nico. Lui, il gère principalement aux sensations et c'est ce que pas mal de trailers font aussi. Et j'ai appris à faire ça dans la course. En montée, ça s'est très bien passé avec ça. Je pense avoir bien géré mon effort là-dessus. Parce qu'en réalité, l'énergie n'a pas été un gros problème. Ou en tout cas, je pense que ma baisse d'énergie à un moment de la course a plus été liée aux problèmes techniques que j'ai eus et à la chute que j'ai pris dans une des descentes.
Ouais. Ouais, je vois. Mais la sensation, c'est super important sur le trail, comme tu dis. J'en parlais avec Thomas Laure Blanchet il y a quelques épisodes en arrière. Quand tu es parti depuis 8 heures, alors même si toi c'était plus court, mais même quand tu es parti depuis 3 heures, que tu es dans le dur musculairement, que ça monte, que machin, parce que tu as toujours des coups de mou, tu peux très bien avoir ton cardio à 110 ou 120, tu vois, si tu étais à la zone à 140, et puis plus avancer parce que tu peux plus le faire, ou à l'inverse, tu es dans une partie où ça va bien, c'est roulant, etc. Ton cardio, il peut être un peu plus haut, tu vois, c'est impossible de tout contrôler, des choses comme ça. Et c'est vachement important ce que tu dis, parce qu'on peut pas vouloir tout rationaliser une pratique extérieure en montagne. Tu vois, c'est quand même, c'est quand même contre nature, en fait.
Totalement.
Je pense.
Ah bah ça, je m'en suis bien rendu compte.
Et puis, tu dis un truc qui est important, parce que tu dis que tu as aussi bossé sur le fait de marcher, justement, de savoir quand il fallait marcher, quand il fallait courir, un petit peu tout ça. Et justement, l'erreur que font beaucoup de gens, moi j'ai déjà fait une dizaine d'années en arrière, c'est de se dire qui peut le plus, peut le moins. Donc à l'entraînement, je vais courir dans toutes les montées possibles et imaginables. Et puis, tu arrives le jour de la course. Et puis tu te mets à marcher, donc tu n'es pas habitué musculairement à courir, marcher. Et ça, tu as beau faire tout le renfo du monde, ça coince un moment ou un autre. Et ça, je voudrais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus, si tu es OK avec moi, et surtout détailler un peu plus comment tu as réussi à aborder ça, justement, cette marche-course.
Il y a eu deux phases, en fait. Il y a eu une phase où... dans la rencontre initiale qu'on a faite avec mon coach, il m'a dit qu'il allait falloir tout de suite que je m'y mette à marcher parce que c'était vraiment important, exactement ce que tu viens de dire. Et moi, je lui ai dit, on va voir, je vais essayer, mais je connais mon profil, ça va pas être facile. Donc, les deux premières sorties longues, j'étais trop haut en intensité, clairement, parce que je déclenchais pas la marche quand il fallait. J'essayais de la minimiser, en fait, comme un coureur qui se dit, le plus efficace, c'est de courir. Et en fait, à un moment, il y a eu un switch où je me suis dit, non, tu commences à marcher largement avant le moment où tu penses que c'est nécessaire. Et finalement, en fait, je suis sûrement celui qui a le plus marché au marathon du Mont-Blanc, parce que je me souviens, dès les premières côtes un peu importantes, la majeure partie des gens autour de moi couraient. On était peut-être deux sur une trentaine autour de moi à marcher, en fait. Et moi, c'était ce que j'avais fait dans ma prépa, c'était dès que le pourcentage est au-dessus de 10% environ, hein, parce que je dis ça, je n'ai pas fait des calculs, je me mettais à marcher parce que sur un effort aussi long, je me rendais compte qu'en fait, j'étais bien plus efficace à marcher. Je perdais beaucoup moins d'énergie et le peu que j'allais perdre en vitesse, en fait, il n'était pas... ça valait pas le coup de courir, en fait.
Je dis souvent ça aux gens que je coach, une montée d'une demi-heure environ, si tu l'as fait à fond dans le milieu de ta course, tu vas mettre 25 minutes, si tu l'as fait en marchant, tu vas en mettre 30, il y a 5 minutes d'écart, sauf que si le plat derrière, tu le fais en marchant parce que tu peux plus arquer, ou si tu le fais en courant et qu'il y a deux bornes de plat, tu as déjà tout perdu. Puis je te parle même pas de la descente qu'il faut gérer derrière, parce que ça, c'est encore autre chose. C'est sûr qu'on voit Rémi Bonnet ou Kylian Jornet, c'est sûr, ils courent tout le long, mais il faut quand même que les gens se disent qu'on n'est pas Kylian Jornet ou Rémi Bonnet, entre autres, hein, il y en a plein d'autres. Mais...
Ah, faut se dire que c'est des gens qui valent 2h20 ou moins sur un marathon, donc ça replace un peu le contexte.
Ouais. Les choses dans le contexte. Et puis, toi, tu dis un truc qui est vraiment important sur le trail, je pense, C'est qu'au début, en voulant courir, toi, tu avais ta fréquence cardiaque qui était un peu trop haute, un peu machin. Mais je pense que c'était la bonne voie. Et c'est pour ça qu'encore plus dans le trail, même si moi, je n'ai pas un fervent intensité de partisan de trop d'intensité, mais encore plus en trail, parce que pour expérimenter un peu tes limites de quand tu peux courir, quand tu peux marcher, quand ci, quand ça, tu es obligé des fois d'avoir ton cardio qui sort un petit peu de ce que tu avais prévu à l'entraînement pour essayer de tester, pour essayer de bosser des relances et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a moins d'intensité dans le trail, parce que finalement, il y a certaines séances, des sorties longues ou des séances où tu as pas mal de D+, où tu vas déjà être obligé d'être plus haut que ce qui est prévu, contrairement à peut-être de la route où tu peux plus rationaliser, je trouve en tout cas. Et
c'est intéressant parce que la discussion qu'on a m'a fait ouvrir Training Peaks et regarder ma moyenne de cardio. Et en fait, sur le premier 3h30, je suis à 156 BPM, alors que je visais 148. Donc en fait, sur cette première partie de course, jamais j'aurais prédit que je serais capable de maintenir ce genre de cardio. Si on m'avait demandé avant, j'aurais dit non, c'est pas possible, physiologiquement c'est trop haut pour moi. Et sur la moyenne de la course, malgré mes descentes marchées à partir d'un certain point, je suis à 151. Donc en fait, j'ai tenu les 5h39 au-dessus de la limite de cardio que je m'étais mise sur le début de course. Donc en effet, pour le coup, si j'avais pris cette décision d'être trop conservateur, ça aurait pas été sûrement utile.
Ouais, je vois tout à fait. Mais après, tu sais, tu dis qu'au début, tu as essayé en courant. On est tous pareils. Moi, j'ai expérimenté. Je fais Sierre Vinal dans un petit mois. J'allais reconnaître le parcours. J'ai dit, OK, je fais la première demi-heure. Moi, j'appelle la DT1, mais facile, en dessous de mon seuil, en courant, juste pour voir si ça passe. Alors oui, je ne vais pas monter en cardio. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, bah, je ne peux plus mettre un pied devant l'autre parce que je n'ai pas le niveau pour le faire. Donc, j'ai tout fait en marchant. Puis dans un mois, je vais marcher. On est tous pareils. Donc, je peux rassurer les gens aussi. On se voit toujours plus beau qu'on l'est. Puis après, ça nous rappelle souvent la réalité.
C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on teste des nouvelles choses. C'est aussi pour faire des erreurs, se dire ah oui, en effet, ça, j'aurais pas dû le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, on l'a appris et on le refait plus en général. Enfin, en tout cas, c'est la qualité principale à avoir. C'est pas grave de faire des erreurs. Mais une fois qu'on l'a faite, il faut l'intégrer pour ne pas la refaire.
Et justement, on va un peu passer à la moulinette tout ce que tu m'as dit là. Et là, peut-être qu'il va y avoir un nouveau trail pour toi, on ne sait pas encore. Ça, tu l'annonceras si tu as prévu. Mais peu importe, en tout cas, quand tu vas repasser sur route ou sur marathon, parce que je pense que tu vas y revenir quand même si c'est aussi ta passion, un jour ou l'autre, en quoi cet entraînement du trail, tu vois, l'entraînement à la sensation, au volume à la place du kilométrage, de l'alternance, toutes ces choses-là, en quoi tu penses que ça peut t'aider pour le marathon?
Moi, je pense que musculairement, on va y avoir quelque chose, en fait, notamment sur l'aspect différence des appuis, utilisation des muscles stabilisateurs un peu plus que sur route. Enfin, je pense qu'il va y avoir un apport sur ma foulée et potentiellement sur mon économie de course, déjà, de une. Ensuite, oui, je pense que ça, j'ai pas encore recouru vraiment sur une prépa marathon, que j'attends de voir un peu, mais pour moi, j'étais déjà relativement bon sur l'aspect sensation. En fait, je suis capable en fin de prépa marathon de courir à mon allure marathon sans regarder la montre à quelques secondes au kilomètre près. Donc ça, c'était, on va dire, une de mes forces sur la route, mais il y a un feedback différent, je pense, qui s'est créé avec le trail aussi, de potentiellement en cardiovasculairement parlant, je sais que je peux aller encore un peu au-dessus, je pense, de ce que j'ai déjà fait sur mes prépas précédentes. Donc moi, ça prouve que l'aspect musculaire est une des clés et qu'on va continuer de mettre l'accent là-dessus, parce que à mon avis, il y a encore de quoi aller chercher sur route si je trouve la clé. Et je pense que aller voir autre chose de temps en temps avec là cette prépa trail, bah c'est bénéfique. C'est difficile de dire pourquoi encore, mais je pense que dans 6 mois là, quand j'aurai fait le marathon de Valence, je pourrais répondre plus précisément à cette question.
Ouais, et tu nous rediras à ce moment-là, mais peut-être que le trail, j'en parlais avec quelqu'un. Après, on faisait les deux du ski de fond avant, donc on ne sait pas si c'est ça qui nous a aidé. Mais moi, quand j'ai fait mon semi-marathon, l'autre fois j'ai fait un 24 bornes presque sur route roulant. À la fin, quand tout le monde est pendu, dans le dernier kilomètre, tu es tellement habitué à ce que musculairement, ça soit dur qu'en fait, bah, tu en doubles pas mal. tu sprintes, alors tu sprintes à 15 à l'heure, donc autant dire que tu es loin du record de Usain Bolt, mais tu arrives quand même, vu que la sensation de douleur musculaire, tu la connais, je dis pas que tu la connais pas en route, mais je pense qu'elle est différente, et je pense que ça t'aide à franchir des limites par rapport à ça.
Ouais, c'est très différent, parce que pour moi, en fait, je veux retourner sur du trail, parce que justement, ce que tu dis là, je ne l'ai pas encore vécu. J'ai pas l'impression d'avoir pu aller au bout de mes capacités musculaires, cardiovasculaires, à cause de cet aspect technique, en fait. Là, littéralement, si je te donne mon dernier kilomètre du marathon du Mont Blanc, là, enfin, peut-être pas le dernier kilomètre, mais la dernière partie, quand on arrive dans la ville, j'étais capable de courir à 3,25, 3,30 sur les dernières centaines de mètres sans problème. Donc, pour moi, la frustration de cette course, ça vient aussi de là, c'est de me dire, je sais que j'en ai encore sous le pied et que j'ai pas pu l'exprimer, en fait. Donc, forcément, ça donne envie de revenir.
Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Donc, c'est pas plus jamais le trail ou plus jamais le marathon, finalement.
Non. C'est par contre, s'il y a un prochain choix de trail pour l'année prochaine, aller peut-être prendre un parcours un peu plus facile, entre guillemets, pour que techniquement, je sois pas... y aller progressivement, en fait. Comme sur tous les aspects, on ne devient pas un expert de descente technique du jour au lendemain. Bah, peut-être aller choisir un parcours qui me convient mieux aujourd'hui et qui me permettra d'apprendre un peu mieux comment descendre. Et au fur et à mesure, bah, si je me sens plus à l'aise, aller chercher des parcours plus techniques. Mais là, c'était un peu... pour moi, c'était trop, en tout cas. Les descentes pleines de racines et de pierres qui dépassent de partout... mais ma foulée n'était pas capable d'encaisser ça.
Ouais, mais c'est spécial. Hein. T'as des gens qui sont, alors ça fait un peu new age quand on se dit ça, mais un peu minéral, et d'autres qui sont un peu verdure, entre guillemets. Je sais que moi, je peux envoyer une grosse descente s'il n'y a pas un caillou. Franchement, je peux la descendre vite. Enfin, vite, je me comprends, hein, pas comme Rémi Bonnet, mais beaucoup plus vite que je suis capable de la descendre s'il y a des cailloux. Parce que. Aussi, ta perception de ton environnement, elle dépend de plein de choses. Et je pense qu'en trail et surtout en descente, ça joue quand même beaucoup. Et tu peux t'y exposer, mais jusqu'à une certaine mesure. Donc après, ça dépend aussi des gens, ça dépend des profils et de plein de choses comme ça. Et autre chose, pour terminer un petit peu là-dessus, quel conseil, d'habitude, je donne aux gens, quel conseil tu pourrais donner pour la pratique de leur sport. Mais là, je vais aussi te la poser, mais aussi, quel conseil tu peux donner aux marathoniens qui veulent un peu s'essayer au trail ou aux trailers qui veulent un petit peu aller au marathon? Quelle passerelle un peu tu peux donner?
Ben, dans les faits, je dirais que pour moi, c'est plus facile de passer du marathon au trail parce qu'en fait, j'ai l'impression que les contraintes, si on y va progressivement, sont au final un peu mieux réparties. Et du coup, l'adaptation peut se faire quand même relativement facilement. Mais du coup, le conseil pour moi, c'est de pas uniquement voir l'aspect forme, capacité à durer, mais c'est de se forcer à aller travailler l'aspect technique en priorité, quitte à faire des séances où l'intensité est basse, mais le travail est juste sur se concentrer sur comment descendre, sur des descentes qui sont pas faciles. Parce que moi, c'est ma principale frustration. Elle est là. C'est j'étais en forme. Et j'ai pas pu l'exprimer, donc en fait, super, ça sert à rien d'être en forme si on est limité par autre chose. Donc, aller travailler des terrains similaires à ce qu'on va être capable de trouver le jour de la course. Et encore une fois, moi, c'est frustrant parce qu'au Québec, il y en a des... Les trails sont quand même assez fournis en racines et en descente de ce type-là, donc j'aurais pu aller le faire. Et à l'inverse, un trailer qui voudrait se mettre au marathon... Je dirais que là, c'est plus dangereux pour moi parce que justement, on va arriver d'un terrain où on se dit, ah bah, c'est bon, je suis capable d'encaisser des gros volumes, donc ça va bien se passer. Une prépa trail, on va faire une prépa marathon, on va faire des 2 heures à 2 heures et demie, ça va, ça c'est facile. Et en fait, la répétition d'un geste qui est très similaire de foulée en foulée est potentiellement ce qui va blesser plus. Et si en plus on rajoute à ça le fait que sur une prépa marathon, on va faire potentiellement plus d'intensité, on a quand même la recette de la blessure qui est pas loin. Donc, c'est de surtout pas vouloir en faire trop en passant du trail à la route parce que ça va forcément donner une blessure à la fin. Enfin, forcément non, mais il y a de gros risques en tout cas.
Ah, mais je suis plutôt d'accord. Et tu vois, là, pour préparer mon marathon, je me suis donné 6 mois parce que je pense qu'il ne me fallait pas moins pour faire la transition avec la route, ce qui est le même temps que je m'étais donné pour préparer l'Ultra Trail des Templiers. Parce que quand tu as un nouveau environnement, il faut déjà le découvrir, mais il faut déjà faire des erreurs. Et tu vois, typiquement, on a plein, il y a des gens que je coach, et moi je vis dans ce cas. Par exemple, je sais que je ferai mon semi, je l'ai fait sans faire une fois de pace. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que chez moi, mon tour roulant, il y a 300 D+. Si tu es sur la route, même sur 17 bornes, il y en a déjà 200. Donc, tu es déjà limité par ça. Il y a plein de gens qui peuvent un peu s'habituer, qui sont obligés de faire ça, quoi. Et je pense qu'il faut aussi s'adapter à ce qu'on a à côté. Et peut-être, comme le trail et le marathon, pas chercher ce qui est l'idéal, pas chercher ce que fait Kipchoge, pas chercher ce que fait machin, mais faire plutôt ce qui est le plus adapté à ça. Et qu'est-ce que toi, tu vas me conseiller à moi, Nico, qui ne peut pas faire de pace? Alors, je vais essayer d'aller me faire une ou deux pace. Je vais prendre la bagnole, je vais faire une demi-heure de route pour aller au bord du lac, pour trouver l'aimant. Mais qu'est-ce que tu peux me conseiller, moi, qui ne peux pas faire du pace pour aller? J'en ai fait un, à peu près, quoi. Tu vois, c'était sur un chemin blanc avec des racines, donc tu vois bien. Mais qu'est-ce que tu pourrais me conseiller?
C'est une bonne question parce que moi, j'ai l'inverse en fait. J'ai un
Ouais.
terrain tout, tout plat qui me permet vraiment de travailler ça de manière très précise. Après, le pace marathon, pour moi, l'intérêt, un des intérêts principaux, c'est quand même de connaître son allure et d'être capable de la répéter le jour de la course comme un robot et de ne pas perdre d'énergie avec ça. Parce que bon, si tu fais des sautes d'allure en disant, ah merde, je vais trop vite, je vais trop lentement. C'est là où tu commences à perdre de l'énergie inutilement et de l'influx nerveux. Donc, au final, si tu es capable en quelques sorties d'apprendre ton allure et de la maîtriser, il n'y a pas besoin d'en faire forcément à chaque week-end, hein. Le fait d'y aller aux sensations avec un effort qui est similaire parce que tu te diras, OK, j'ai fait ça sur mon tour du lac, j'essaye de reproduire un effort similaire si je veux faire de l'intensité marathon, ça fonctionne aussi. Le fait est que pour moi, la contrainte principale du marathon, c'est le bitume. Donc, pour le coup, moins de trail et aussi de l'accoutumance à courir longtemps sur bitume sans pause. Donc, parce que pour moi, quand on fait du trail, marcher, c'est pas une pause en soi, mais en termes de foulée, c'est une pause en fait. On change totalement la manière dont on va avancer. Et en marathon, on ne s'arrête pas, on répète. Et en fait, c'est dur pour le corps. Et même si on ne veut pas aller faire un marathon à l'entraînement pour s'habituer à ça, bah les sorties longues servent quand même à se pousser un petit peu au fur et à mesure pour aller s'habituer à faire un 2h, 2h30 sans finir trop mal et être capable le jour J de l'encaisser aussi.
Ouais, bah, merci de la réponse, mais je la pose pas que pour moi, parce qu'il y a sûrement d'autres gens qui sont dans ce cas. Et j'ai que moi, la stratégie que j'ai, c'est de me dire au début, je fais 2 tiers trail, 1 tiers route. Ensuite, je vais passer à 50-50, et ensuite, je pense que je vais faire l'inverse progressivement. Pour un temps, je fais mes footings faciles sur route, 2-3 sorties de 17 bornes. Mais toi, tu parles d'expérimentation. Moi, mon premier semi, je me suis beaucoup basé à la sensation, parce que je viens du ski de fond, du trail, ça venait de là. J'ai dit, j'estime que je vais mettre entre une 25 et une 35, ce qui est une énorme fourchette, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis parti là-dessus, tu vois, j'ai mis 26 au final. Peut-être j'avais plus de marge, mais même ça, quand t'es pas expérimenté, j'ai pas eu de variation d'allure. Et un truc que j'ai découvert ce jour-là, et c'est le problème du trailer, tu as l'impression que quand j'arrivais au 17e, j'étais vraiment facile sur mon allure, je pense, c'était en 1,25. Du coup, j'ai dit, j'ai vissé, j'ai fait mon 17e en 3,50. Et j'ai fait mon 18e en 4,22. Et après, je suis revenu pour refaire. Mais tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'en route, tu as moins de marge de manœuvre qu'en trail, finalement.
Ah ouais, clairement. Enfin, moi, si je prends mon allure sur avant d'avoir rebattu mon record, mais j'avais 3,35 sur un semi et je visais 3,43 sur mon marathon à Berlin. Donc, on joue vraiment sur du détail de quelques secondes au kilomètre au final. Et tu prends
Ouais, mais
quelques
c'est.
secondes plus vite, tu te retrouves à être dans le rouge. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver vraiment. En fait, la prépa marathon, elle sert à trouver cette limite qui est le maximum que tu vas être capable de tenir pendant 42 bornes, pas une de moins, pas une de plus, en fait.
Ouais. C'est-à-dire que finalement, si je peux résumer, tu me diras si je suis d'accord, mais ta limite sur un marathon, bon, il y a le musculaire, mais elle est aussi énergétique dans tes substrats et dans ton seuil où tu en es beaucoup. Et en trail, ça va plutôt, c'est pas le cardio qui va te limiter rarement, c'est plutôt justement le musculaire. Est-ce que tu es capable de varier l'allure? Tu vois, c'est deux choses différentes et qu'il faut explorer en fait.
Ouais. Bah, moi, pour le coup, je me rapproche d'un trailer dans mes limites, mais en effet, y a aussi cette capacité sur le marathon à énergétiquement ingérer suffisamment de glucides. En tout cas, ça dépend quel temps on vise. Hein. Encore une fois, on pourrait discuter différemment d'un marathon en 5 heures ou en 2h30. Les contraintes sont un peu différentes aussi. Mais quand on est sur des temps comme moi, je les vise, ça brûle beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça reste relativement court. En fait, 2h30, c'est pas... On va pas pousser sa limite très très loin. Donc en fait, en maintenant un bon niveau de ravitaillement, qui va pas non plus avoir le temps de trop nous perturber gastriquement, ça fonctionne. Pour moi, c'est le marathon en fait est plus compliqué à gérer quand on est sur du 3h30, 4h et plus, parce que là, on se rapproche d'un, enfin, si on est sur un effort beaucoup plus long, et du coup, il y a plus de contraintes en fait. On a plus de chances. Enfin, je vais pas dire que le marathon est plus facile à 2h30, mais c'est un petit peu quand même. C'est un peu comme ça que je le vois d'une certaine manière.
Ok. Et donc pour la fin, quels conseils plus généraux tu peux donner un peu à tous les gens qui nous écoutent pour la pratique de leur sport? Vraiment une philosophie que tu leur donnerais?
Ouais, je pense que tu. T'as déjà pu le partager avec Tristan, mais nous, on a deux mots, c'est régularité, progressivité. Le but, c'est d'être là sur le long terme et le moyen long terme, en fait. Nous, si on est passionné de course, ce qu'on veut, c'est être capable de courir 50 ou 51 semaines par an, là, avec la coupure annuelle. Et pour ça, il faut y aller chaque semaine sans discontinuer et surtout pas en faire trop. En fait, il faut prendre son temps. La progressivité, c'est hyper important. Si aujourd'hui vous êtes à 3 ou 4 séances par semaine, cherchez pas à passer à 5 ou 6 d'un coup. Allez-y avec des petits ajouts progressifs si vous avez envie, et ça se passera bien. Et on parle de volume et d'intensité. Les deux sont des ajouts qu'il faut utiliser avec parcimonie. Mais si vous voulez en faire plus, c'est possible. Il faut juste prendre le temps de bien le faire.
Ok. Courir 50 semaines par an jusqu'à minimum 50 ans. Même jusqu'à 80 si on peut.
Ah, moi, c'est plutôt mon objectif, c'est de le faire le plus longtemps possible. On n'en est pas encore là, donc j'annonce pas ce genre d'objectif aujourd'hui. Mais si je peux être encore là dans 30 ans à montrer que ça fonctionne, ça sera mon plus grand plaisir. Parce que l'aspect santé, on parle souvent de performance parce que bon, on est des compétiteurs, mais l'aspect santé est montrer que le combo sport d'endurance plus renforcement t'amène très loin. Ça, c'est vraiment, c'est prouvé par la science aujourd'hui. Maintenant, on a des choses qui nous le montrent, mais la preuve par l'exemple est toujours plus parlante pour les gens. Donc, si on peut aller essayer de prouver ça au fur et à mesure, ça sera avec plaisir.
Ok. Eh ben, merci beaucoup, Nico, pour cette sage conclusion et le temps que tu nous as consacré. C'était vraiment passionnant. On aurait pu encore faire des heures et des heures. Mais ça sera un podcast de sortie longue, là, parce que ça fait à peu près 1 heure, a priori. Donc, merci en tout cas.
Merci à toi.
Allez, au revoir à tout le monde.
Salut.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.